en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil et merci à votre Académie, à vous tous, Mesdames et Messieurs, de me recevoir. Je vous salue très respectueusement dans vos grades et fonctions. C'est la première fois que je m'exprime devant vous et en ces lieux chargés d'histoire, j'en suis, je dois le dire, assez ému, comme souvent les premières fois. Je m'exprimerai à la fois dans mes fonctions que vous avez rappelées, Monsieur le Président, mais aussi à titre personnel afin de donner un ton un peu plus libre à mes propos et à nos échanges. En effet, l'action extérieure de la France peut se décrire sous forme d'un catalogue de mesures. Personnellement, je vous éviterai tout cela et je travaillerai plutôt sur les problématiques liées à cette action. Depuis les attentats de janvier 2015, la France vit dans un contexte radicalement nouveau. Certes, elle avait déjà subi par le passé une violence terroriste épisodique à laquelle elle avait payé le prix fort. Mais désormais, elle doit affronter durablement une menace de nature globale qui l'oblige à déployer simultanément et de façon coordonnée de nouveaux moyens de lutte sur son territoire et à l'international. C'est la dimension extérieure de notre action en matière de terrorisme qui nous intéresse aujourd'hui. Action dont tout le monde sait ici qu'elle est devenue multiforme. Opérations militaires simultanées sur plusieurs théâtres et intégrant désormais tout le spectre des menaces asymétriques. Recentrage de la coopération policière et judiciaire et surtout dans le domaine du renseignement. Action diplomatique s'exerçant dans un environnement instable et surtout imprévisible. Qui peut dire ici ce que seront la Syrie ou la Libye dans seulement un an ? Personne, ni ici ni ailleurs. Alors vous pensez, les groupes terroristes qui s'y trouvent, c'est encore plus difficile. Il faut rappeler cependant que la frontière est parfois floue entre actions menées à l'intérieur de nos frontières et actions menées à l'extérieur. Par exemple, la lutte contre les idéologies radicales venues de l'extérieur mais diffusées chez nous via de nombreux supports, eh bien, ça relève des deux dimensions, interne et externe. Et cela parce que le djihadisme islamiste a établi de nombreux ponts et parfois une continuité opérationnelle entre les terroristes chez nous et les groupes terroristes là-bas, pourrait-on dire, c'est-à-dire principalement au Levant ou en Afrique. Et pour aborder l'action extérieure de la France, deux questions doivent être nécessairement posées, dont les réponses ne vont pas du tout de soi, contrairement aux apparences. Contre quoi nous battons-nous vraiment et quels sont nos objectifs réels ? Et deuxième question, en quoi le terrorisme d'aujourd'hui est-il différent de celui des années 80 et 90 ? Et c'est seulement après avoir abordé cela que nous pouvons, dans un deuxième temps, comprendre les dynamiques de notre action extérieure et essayer d'évaluer celle-ci en termes d'efficacité, aussi bien dans le court terme que dans le long terme. Première question donc concernant le terrorisme contemporain. Qui est l'ennemi ? Parce qu'il faut d'abord nommer ce contre quoi nous devons désormais nous battre. Nommer l'ennemi, cette prérogative du régalien, comme disait Carl Schmitt. En effet, après la fin de la guerre froide, les démocraties occidentales avaient fait disparaître l'ennemi, entre guillemets, de leur vocabulaire, troqué contre des références aux nouveaux risques et aux nouvelles menaces. Face à ceux qui nous croyaient parvenus à la fin de l'histoire, avoir des ennemis aurait signifié qu'il restait encore des territoires non ralliés à un nouvel ordre mondial que nous affirmions pacifique. Sauf qu'avec l'avènement de Daesh, le réveil aura été brutal. S'en est suivi un certain désarroi de la réflexion stratégique et une perplexité devant la conceptualisation de cette nouvelle adversité. Souvenez-vous, après l'attentat au Bataclan, le président de la République, François Hollande, commence son discours devant le Congrès réuni à Versailles par « La France est en guerre ». Et tout le monde sent bien à ce moment-là que ce vocable, martial, ne rend pas compte de façon satisfaisante de la réalité de la confrontation dans laquelle nous sommes engagés. Parce qu'il ne recouvre pas le concept de guerre tel que l'histoire nous l'a enseigné, et d'ailleurs, il n'est d'ailleurs pas utilisé par d'autres pays européens ayant subi eux aussi des attaques terroristes. En fait, soit il faut ajouter tout de suite c'est une guerre d'un genre particulier, soit il faut admettre que nous n'avons pas encore de mots pour désigner globalement, pour englober, pourrait-on dire, ce qui relève en fait de trois niveaux d'adversité à la fois distincts et liés entre eux. Trois niveaux d'adversité. C'est d'abord une idéologie, une vision du monde, celle de l'islamisme djihadiste radical qui doit être combattu. Là est l'ennemi principal, sans doute. Cette idéologie, portée par des salafistes radicaux et autres takfiristes, non seulement elle s'oppose à notre propre conception du monde, mais elle est utilisée par les plus jusqu'au boutistes pour appeler à la destruction de celle-ci. Et se battre contre une telle idéologie, on va le voir, se révèle particulièrement difficile, parce qu'on ne vainc pas une idéologie à coups de canon. Le deuxième niveau, ce sont les organisations militairement armées, vecteurs de cette idéologie. On les connaît, Daesh, Al-Qaïda en premier lieu, mais aussi tous leurs épigones. ACMI, ACPA, les groupes ralliés comme l'ex-front Al-Nusra ou Boko Haram, etc. Là, nous nous battons militairement contre ces organisations dans des combats qui ne sont pas toujours de basse intensité. Mais la qualification de ce type d'engagement n'en est pas simple pour autant, en ce qu'il se situe entre une guerre classique et une opération de police internationale d'un type nouveau, menée avec des moyens militaires, contre des entités non étatiques disposant elles aussi de moyens militaires. Enfin, le troisième niveau, ce sont bien entendu les terroristes chez nous, ceux qui ont frappé la France ou qui souhaitent le faire. Ceux-là, ils n'évoluent pas seulement dans la dimension nationale. Ils sont reliés à l'extérieur par un système de liens complexes dont je dirais un mot. Fort heureusement, nous avons évité de les qualifier d'ennemis intérieurs, notion dont l'histoire nous a appris la vacuité. Mais je vous rappelle les débats difficiles, par exemple sur la déchéance de la nationalité, que je rappelle juste ici pour mémoire. Au passage, on notera que ces trois niveaux d'adversité correspondent à des temporalités différentes et que, par exemple, nous avons à faire face à la fois à un ennemi structurel, l'idéologie djihadiste radicale, et à un ennemi conjoncturel, Daesh, Al-Qaïda et tous ces groupes terroristes déjà évoqués dont nous cherchons ni plus ni moins que l'élimination. Voilà donc pour ce premier point. J'en viens maintenant aux différences avec le terrorisme d'avant, toutes ces mutations et ruptures par rapport au terrorisme des années 80 et 90. Triple rupture, pourrait-on dire, qui porte sur les racines et les causes du terrorisme, ses objectifs et ses modes d'action. Les causes d'abord. Après les attentats qui ont frappé l'Europe et la France en 2015 et 2016, chacun de nous s'est légitimement demandé quelles étaient les causes de ce déferlement de violence. La réponse est loin d'être évidente. D'ailleurs, discuter autour de vous, on pourrait faire l'exercice ici d'ailleurs, sauf le respect que je dois à cette auguste assemblée, quelle est la cause principale du terrorisme actuel, selon vous? Eh bien, certains vous parleront globalement d'affrontements de civilisations ou à tout le moins d'incompatibilités culturelles et religieuses. D'autres parleront de stratégies de la terreur adoptées par des organisations extrémistes qui visent à provoquer chaos et affrontements, y compris interreligieux. D'autres encore parleront des multiples frustrations des candidats au djihad, comme par exemple celle liée chez nous au manque de perspectives pour de nombreux jeunes des cités. De fait, vous recevrez autant de réponses différentes que de personnes que vous interrogerez. C'est que le terrorisme contemporain ne se laisse pas appréhender comme celui des décennies passées, à partir de quelques causalités immédiatement perspectives. Elles apparaissent désormais à la fois globales et locales. Pour les identifier, ce qui est absolument nécessaire pour les combattre, il est commode d'établir une sorte de cartographie de ces causes en les représentant emboîtées, comme des poupées russes. La plus englobante correspondrait alors à certaines crises liées à la mondialisation, les réactions de rejet de l'occidentalisation, voire de l'américanisation de la planète, les échecs relatifs de la gouvernance mondiale, les conséquences géostratégiques de la concurrence pétrolière et gazière, l'explosion de l'économie criminelle, etc. La poupée gigogne plus petite reflèterait les crises régionales, le chaos irako-syrien et la cristallisation des antagonismes au Moyen-Orient, largement entretenus par des interventions extérieures, faut-il le dire. Et puis le désarroi de l'Europe aussi, qui a laissé s'installer en son sein des écosystèmes djihadistes reliant des foyers de violence potentiels et constituant autant de relais de l'islamisme radical. Puis on descendra au niveau national. Par exemple, en France, le doute identitaire, les coups portés à la laïcité, la difficulté du politique à entraîner, dans de grands projets mobilisateurs, l'ensemble de la population sans laisser quiconque au bord de la route. Puis on se focalisera ensuite sur l'échelon local, la dégradation des ghettos urbains, notamment, l'absence de perspective et les difficultés de l'inclusion sociale pour les jeunes, l'importance de l'économie parallèle. Et pour finir, il faut chercher les ressorts ultimes du terrorisme dans la psychologie individuelle de ceux qui basculent dans l'action violente. Frustrations diverses, recherche de sens, quête identitaire, sentiment d'une discrimination communautaire, désir d'action, que sais-je. Deux remarques donc. Aucune de ces causes n'explique à elle seule les attentats récents. Toute explication univoque, sociale, géopolitique, religieuse, psychologique, s'avère insuffisante. Plus encore, toute hiérarchie de ces causalités qui ont privilégié une plutôt qu'une autre est aussi sujette à caution. Deuxième remarque, on voit bien qu'à l'examen des causes et du contexte, du plus global au plus local, on passe de façon continue de causes extérieures à des causes endogènes, telles que vous les avez citées, Monsieur le Président. Et là encore, s'estompe la frontière entre extérieur et intérieur, il en sera de même pour les actions à mener. Résultat des courses, si je peux me permettre. Dans le grand chaudron de la mondialisation, les causes, mais aussi les effets de la violence terroriste, s'enchevêtrent à et entre tous ces échelons. En ce sens, le terrorisme est devenu systémique. Il n'est plus un phénomène marginal de la mondialisation, il lui est désormais consubstantiel. Des causes, je passe maintenant aux objectifs. L'action terroriste qui frappe l'Europe ne vient plus, comme autrefois, à l'appui de combats tactiques et localisés, les anarchistes russes, les combattants palestiniens, les indépendantistes de l'ETA ou de l'IRA, les GIA algériens, que sais-je, ne vient pas non plus à l'appui de combats idéologiques reflétant les affrontements de la guerre froide, la fraction armée rouge, action directe, etc. L'objectif du terrorisme islamiste, en bref, s'attaquer à tout ce qui fait obstacle à l'avènement d'un monde gouverné par un absolu musulman, eh bien, cet objectif s'appuie aujourd'hui sur une vision intemporelle et totalitaire en rupture avec le terrorisme des années précédentes. Jusque dans les années 80, le terrorisme qui frappe l'Europe, rappelons-le, n'est pas islamique. La revendication de ses acteurs et sympathisants est à cette époque politique, quand bien même elle émane d'acteurs sunnites, groupe islamique armé algérien, combattants palestiniens, etc., ou d'acteurs chiites, le Hezbollah pro-iranien par exemple. La France est alors attaquée pour ses positions dans les conflits internationaux, en particulier ceux qui déchirent le Moyen-Orient. La motivation proprement religieuse apparaît dans la décennie 90, on se souvient de Mohamed Merah en 95, jusqu'à devenir prépondérante chez les auteurs des attentats depuis le début des années 2010. Et cette prépondérance de la revendication religieuse sur la revendication politique est une rupture avec le terrorisme passé. Une deuxième et dernière rupture concerne les ambitions affichées par les organisations terroristes islamiques. Comme je l'ai dit, on est loin de combats locaux, comme l'ont été par exemple le terrorisme palestinien, etc. Certes, plusieurs groupes continuent d'agir dans leur sphère territoriale historique, au point d'ailleurs de s'y institutionnaliser, le Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, etc. Mais l'évolution principale reste que le terrorisme des acteurs islamistes contemporains les plus actifs, comme Al-Qaïda ou Daesh, s'est progressivement internationalisé jusqu'à se revendiquer comme une lutte de nature globale. Après les objectifs, je passe au mode d'action. Et concernant cela, nous constatons encore deux ruptures avec le passé. La première concerne les organisations terroristes elles-mêmes. Jusqu'à l'apparition d'Al-Qaïda, la structure des groupes terroristes reste facilement compréhensible, car directement liée à la cause qu'ils soutiennent comme à leur mode d'action. Mais les groupes djihadistes d'aujourd'hui ont proliféré. On en compte plus de 500 aujourd'hui, rien qu'au Levant. Ils s'avèrent malaisés à identifier. Leurs motivations réelles sont souvent difficiles à comprendre. Ils ont développé une forte capacité à s'adapter et à se transformer sans cesse, et ils travaillent en réseau. Bref, on est passé de groupes bien identifiés à une sorte de nébuleuse djihadiste qui ne se laisse pas enfermer dans les catégories habituelles d'acteurs internationaux. Seconde rupture sur ces organisations. La capacité idéologique et militaire d'organisations comme Al-Qaïda et Daesh d'élaborer et mettre en œuvre des stratégies sophistiquées et différentes de combat sur plusieurs théâtres d'opérations, y compris loin de leur base. L'évolution la plus déterminante et novatrice, nous la connaissons tous, elle vient de ce qu'elles envoient de moins en moins de terroristes issus de leur rang combattre hors du Moyen-Orient, mais qu'elles ont développé une capacité de mobilisation partout dans le monde, d'apprentis djihadistes, capables de commettre des attentats à proximité immédiate de leur propre lieu de vie. L'action terroriste se caractérise désormais par une absence de front, c'est-à-dire de zone de contact claire entre entités ennemies. Et à celui-ci se substituent d'une part l'infiltration et la dissémination de terroristes sans frontières envoyés par leurs organisations, que Daesh avait appelé les lions du califat, et d'autre part, le ralliement et l'instrumentalisation de combattants, plus ou moins isolés, sur le lieu même où ils vont commettre leurs attentats, que Daesh avait appelé un temps les soldats du califat. Et donc une spécificité de Daesh, et une première à l'époque moderne, restera d'avoir simultanément tenté de territorialiser un État islamique sunnite et réussi à déterritorialiser le terrorisme international. Voici donc quelques éléments brièvement présentés qui, d'une certaine façon, expliquent et justifient les actions extérieures que nous menons et que j'aborde maintenant plus directement. Pour lutter donc contre ce fléau du terrorisme, il nous faut améliorer sans cesse et repenser parfois, de façon pragmatique, l'organisation de nos dispositifs. Ils avaient été conçus contre des ennemis d'une autre époque, rétrospectivement d'ailleurs plus simple à appréhender, alors qu'il nous faut désormais tout à la fois, comme je l'ai dit, bloquer la propagande idéologique islamiste, ensuite vaincre militairement les organisations terroristes sur plusieurs théâtres, au Levant, en Afrique du Nord, dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique subsaharienne. Et peut-être faudra-t-il concourir bientôt avec nos alliés à la lutte dans d'autres zones où nous sommes traditionnellement moins présents, comme en Asie du Sud. Et puis, troisième niveau, arrêter chez nous des apprentis djihadistes difficiles à détecter avant qu'ils ne passent à l'acte. Et bien sûr, le tout dans la nécessité absolue pour l'État de respecter les droits des citoyens, et de penser l'action à mener bien au-delà de la défense de ses frontières physiques, dans la sauvegarde des valeurs d'une société, d'un mode de vie, certains diront, dans la sauvegarde d'une civilisation. Je commence par la lutte contre l'idéologie. Je l'ai dit, cela s'avère particulièrement difficile, parce qu'il s'agit de mettre en œuvre tout un ensemble d'actions intérieures et d'actions extérieures. Beaucoup a été fait, mais les résultats, nous le savons tous, demeurent mitigés. Dans la panoplie des mesures, qui est assez grande en fait, trois reflètent des enjeux importants touchant à l'international. D'abord, le contrôle de la pénétration du salafisme en France et la surveillance de certains discours et de certains prêches. Question qui débouche vite sur celle du choix et de la formation des imams. C'est particulièrement sensible et au Quai d'Orsay, cet ensemble nous amène à développer un dialogue avec de nombreux pays, Maroc, Algérie, Turquie, Arabie Saoudite, Sénégal, etc. Dialogue compliqué par les concurrences entre ces pays au sein des instances françaises de représentation des musulmans. Deuxième question tout à fait sensible, la surveillance des contenus sur Internet et les réseaux sociaux. Nous travaillons sur ce sujet principalement au niveau européen et avec les GAFA. Les discussions à Bruxelles sont compliquées dès que l'on aborde le niveau normatif. Qu'est-ce qu'un contenu haineux ? Où s'arrête la liberté d'expression ? Mais le niveau opérationnel fonctionne bien. Et puis pour ce qui est de la coopération avec les GAFA, nous observons une réelle prise de conscience de leur part quant à la nécessité de travailler avec nous sur le retrait de certains fichiers mis en ligne et sur la conservation des données d'identification de leurs auteurs. Enfin, le plus difficile, la prévention de la radicalisation dans les prisons. Les prisons françaises, nous le savons, c'est un incubateur de la radicalisation djihadiste. Et le problème d'aujourd'hui est renforcé par celui des combattants terroristes français de retour chez nous. Ce qui est intéressant, quand on suit ça au jour le jour, c'est qu'on constate que beaucoup qui avaient décidé de combattre la France à l'extérieur demandent aujourd'hui d'y revenir, en plus avec la protection consulaire. Je note d'ailleurs que la semaine dernière, incidemment, le Conseil d'État a établi que nous n'étions pas obligés de les rapatrier. L'opinion publique est évidemment très majoritairement favorable à ce qu'ils ne rentrent pas, notamment à cause de leur dangerosité. Nous sommes en négociation permanente sur ce point, en Irak, avec les Kurdes, etc. Les voir rentrer, c'est les voir rentrer pour aller en prison. Et c'est s'exposer à un prosélytisme renforcé à partir des prisons françaises, à la possibilité qu'ils agissent depuis la prison, et bien sûr une fois sortis de prison. Ce point est essentiel. La prison comme base de formation et d'action du djihadisme, c'est un problème clé depuis des années et pour les années à venir. D'autant que, il faut bien le reconnaître, tout ce qui a été organisé en matière de déradicalisation s'est avéré décevant. Pour le Quai d'Orsay, la lutte contre le prosélytisme suppose un dialogue politique soutenu avec un certain nombre de pays, notamment lorsque la gouvernance de ces derniers tente à nourrir des idéologies extrémistes. Et ce dialogue, je ne vous fais pas un dessin, il reste d'autant plus difficile que nous avons des intérêts économiques importants avec beaucoup d'entre eux. Et puis cela nécessite aussi un dialogue avec les autorités religieuses hors de France, que nous n'avons pas l'habitude d'entretenir. Toutes ces difficultés que j'aborde brièvement, mais sur lesquelles nous pourrons revenir, elles ont de nombreuses conséquences sur ce qu'on appelle communément le vivre ensemble en France. Parce que le fondamentalisme nourrit une crise de confiance au demeurant séculaire de l'Occident envers l'islam, l'Occident se sentant menacé par l'islamisme et ses dynamiques de violence menées au nom de l'islam. Et peut-être qu'au bout du compte, en matière idéologique, et au-delà de toutes les mesures que nous prenons et qu'il faut prendre à juste titre, nous ne devons compter in fine que sur le caractère préférable de notre culture démocratique et ouverte, alors même que nous sommes vulnérables du fait même de cette culture démocratique et ouverte. Et moyennant que nous la défendions le plus ardemment possible en proposant un meilleur système d'intégration, de sécularisation, d'inclusion, etc. Mais sans naïveté, bien sûr, car rien ne permettra en fait de faire disparaître des îlots d'ultra-orthodoxes rejetant la modernité, comme il en existe dans toutes les religions, ni d'ultra-violents qui chercheront toujours à en découdre. Je passe de la lutte contre les idéologies à la lutte contre les groupes terroristes eux-mêmes à l'étranger. Dans un contexte de crise et de conflits incessants, notre action extérieure contre le terrorisme passe par tout un ensemble de canaux, car l'approche est forcément collective et différenciée par enceinte et par pays. Cela va des résolutions au Conseil de sécurité à l'élaboration normative à l'Assemblée générale, Vous avez rappelé, Monsieur le Président, la Convention contre le financement du terrorisme, adoptée à l'ONU, par exemple. Cela passe par des groupes dédiés, à commencer par la coalition contre Daesh, qui est un vrai succès, parce qu'elle a eu quand même raison de cette organisation. Cela passe par des conférences spécifiques, conférences de donateurs pour la reconstruction, conférences de type No Money for Terror, que nous avons organisées. Et puis tout un travail bilatéral, et puis multilatéral, avec le pays du G5, du G7, du G5 Sahel, de l'Union européenne, etc. Et puis, bien sûr, le hard power, nos interventions armées au Mali, en Libye, en Irak, en Syrie. Je pourrais décrire, si vous le voulez, le dispositif complet de nos interventions, de la coalition en Syrie-Irak jusqu'à Barkhane et notre dispositif d'appui en Afrique à la MINUSMA et à la force conjointe du G5 Sahel. Mais comme vous connaissez sûrement tout cela en grande partie, il vaut mieux que je réponde à vos questions, le cas échéant. Je rappellerai juste trois problématiques essentielles concernant nos interventions militaires. Les trois sont très sensibles. La première, en même temps qu'elles sont un vecteur essentiel de lutte contre le terrorisme, ces interventions contribuent-elles à faire de nous une cible prioritaire des djihadistes en Europe ? La question mérite pour le moins d'être posée. Est-ce qu'à écouter les djihadistes, il n'y a pas de doute ? Ainsi, en juillet 2010, après une opération militaire française contre un camp djihadiste, ACMI proclame que, je cite, « Nicolas Sarkozy a ouvert la porte de l'enfer sur la France et les Français ». Début 2013, un mois après l'engagement des soldats français au Mali pour stopper la progression des combattants islamistes vers Bamako, ACMI interpelle la France « Vous creuserez la tombe de vos propres enfants ». Mais c'est surtout le 22 septembre 2014, quelques jours après les premières frappes françaises sur les positions de Daesh en Irak, que son porte-parole, Mohamed Al-Adnani, publie un communiqué d'une rare agressivité. La menace de Daesh vise explicitement la France sous forme d'une autorisation théologique de tuer. Cependant, un article de juillet 2016, paru dans Dabiq, un des organes médiatiques de Daesh, apporte une clarification essentielle sur ce point. Je cite « Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que même si certains assurent que votre politique extérieure est à l'origine de notre haine, cette cause est secondaire, raison pour laquelle nous ne l'exposons qu'en fin de liste. En réalité, même si vous cessez de nous bombarder, de nous emprisonner, de nous torturer, de nous diffamer, de prendre nos terres, nous continuerons à vous détester parce que la cause principale de cette haine ne cessera pas tant que vous n'aurez pas embrassé l'islam. » Et de fait, fin de citation. Et de fait, l'intervention en Irak et en Syrie n'est que la troisième des motivations proclamées de Daesh en ce qui concerne la France. Après avoir osé insulter le prophète, s'être vanté de combattre l'islam en France, avoir frappé les musulmans en terre du califat. On peut donc considérer que nos interventions extérieures constituent au pire un facteur aggravant, mais non déterminant, de la motivation des terroristes, ou encore qu'elles servent de prétexte, mais ne correspondent pas à la cause réelle des attentats qui nous ont frappés. Deux arguments supplémentaires. D'autres pays, à commencer par la Belgique, par exemple, ont pu être touchés, alors même qu'ils n'intervenaient pas militairement. On le verra cependant que la Belgique fait partie de la coalition. Et puis, dans la période récente, la plupart des interventions françaises n'ont pas généré de terrorisme sur notre sol. En Irak en 91, en Libye en 2011, puis en Afrique. Au final, le politique ne peut qu'affirmer qu'une possible rétorsion terroriste ne constitue pas en soi une raison a priori de ne pas intervenir. En 83, fallait-il laisser le Liban descendre dans l'enfer ? En 2001, certains s'en souviennent ici, fallait-il laisser l'Afghanistan devenir sans réagir un sanctuaire pour Al-Qaïda, même s'il l'est resté d'ailleurs ? En 2016, pouvait-on laisser Daesh s'étendre des deux côtés de la ligne Sykes-Picot, sauf à reconnaître que celle-ci avait perdu sa légitimité. C'est la première problématique que je voulais aborder sur nos interventions extérieures. La seconde est la suivante. Comment nos interventions extérieures modifient-elles notre image à l'international ? En fait, il y a du positif et du négatif. Le positif d'abord. Je suis toujours surpris, dans le bon sens du terme, par, lors de nos discussions avec les Américains, Cette phrase revient toujours, les Français font le job. Et notamment dans la zone du G5 Sahel. Évidemment, c'est lié à l'efficacité de ces interventions. Il est public maintenant que plus de 600 terroristes ont été éliminés par nos forces en Afrique. Il y a beaucoup d'autres aspects positifs, y compris dans nos interventions au Levant. Vous les connaissez. Mais il y a aussi des aspects négatifs. Le problème, c'est que nous sommes obligés de faire alliance avec des pays dont la gouvernance est souvent médiocre. Et cela brouille, à bien des égards, notre image à l'international. Nous pourrons y revenir, mais vous savez tous combien nous sommes attaqués aujourd'hui et nous sommes attaqués en référé aujourd'hui même à nouveau sur la question des ventes d'armes à certains pays du Moyen-Orient. Troisième question. Ces interventions militaires nous donnent-elles réellement plus de marge de manœuvre politique et diplomatique? Nous constatons par exemple que malgré notre participation active aux coalitions militaires destinées à lutter contre le terrorisme, nous disposons de peu de leviers pour peser sur la résolution de la crise syrienne. Outre le régime lui-même, vous savez tous ici que ce sont désormais les Russes, les Américains et dans une moindre mesure les Iraniens, les Turcs et le régime syrien lui-même qui détiennent la clé. En Afrique, la problématique est différente. Ce n'est pas une question de marge de manœuvre politique, c'est de savoir comment vont se terminer ces opérations. Je n'aime pas parler du risque d'enlisement, mais tout le monde voit l'image. Surtout si on demande à nos armées de faire plus que la lutte contre le terrorisme, notamment la lutte contre les grands trafics. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un effet de déplacement, ce que les Anglais appellent le « balloon effect ». Les opérations au Mali sont réussies. Eh bien, les terroristes se déplacent. Après le Mali, nous voyons aujourd'hui que la tension monte au Burkina Faso et qu'il va falloir faire, lentement mais sûrement, une bascule de force vers le sud-est, de là où nous avons commencé à intervenir. Effet pervers, d'ailleurs, aussi, d'un mauvais transfert de compétences. Nous sommes appelés pour lutter contre le terrorisme et plus nous luttons, plus un certain nombre d'acteurs locaux disent « bien les Français sont là, autant les laisser faire », alors que toute notre action vise en réalité à transférer notre capacité de lutte à ces acteurs locaux, et bien cela s'avère assez difficile et en tout cas très long. Toutes ces interrogations ne remettent pas en cause le principe même de l'intervention. Il est clair que pour nous, l'hypothèse des conséquences négatives des interventions militaires, les possibles revanches terroristes, la déstabilisation régionale, mais aussi certains effets comme le chaos migratoire, tout cela n'est pas en soi une raison a priori de ne pas intervenir. Mais l'interrogation porte plutôt sur les modes d'intervention, le damage control, la capacité de déconfliction et notre capacité un jour à reconstruire. Voilà pour le deuxième niveau, celui de la lutte contre les organisations. Je dis un mot des terroristes chez nous. Alors évidemment, vous me direz, c'est moins la politique extérieure, sauf que c'est tout à fait lié. La lutte contre le terrorisme chez nous, c'est deux choses, la prévention et la répression, bien entendu. La répression, c'est tout un ensemble de mesures qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à empêcher et lutter contre tous ceux qui passent à l'acte sur notre sol. Et au fond, elles sont de nature très diverse. Police, justice, renseignement, douane, finance, etc. Et je dis souvent, la lutte contre le terrorisme chez nous, c'est comme un râteau qui doit attraper toutes les feuilles. Il y a combien de dents au râteau? Il y a combien de mesures à mettre en œuvre? À peu près 150, entre 100 et 150, dont la plupart sont mises en œuvre, mais à des degrés divers. Sur le râteau, vous avez des dents plus ou moins acérées. Il y en a qui sont très acérées. Par exemple, le repérage des djihadistes, ce qu'on appelle généralement les fiches S, mais pas seulement. Et puis vous avez des dents qui sont émoussées. Le suivi des fiches S, et qui pose toujours un certain nombre de problèmes. Et puis vous avez des dents qui manquent au râteau. La prévention de la radicalisation en prison, même si beaucoup d'efforts ont été faits depuis un an en matière de renseignement pénitentiaire. Et puis, là encore, la surveillance de certains extrémistes et la question de la formation des imams et tout ce genre de choses. Et puis, il faut une cohérence entre les dents du râteau, particulièrement la cohérence de la chaîne pénale et judiciaire. Parce que si les dents ne sont pas alignées, bien les feuilles passent. Et puis, il y a les mesures de prévention. Ça, c'est autre chose. C'est pour qu'il y ait le moins de feuilles possible. Et là, on est dans des mesures qui relèvent de l'éducation, de la culture, de l'enseignement, du travail, de l'emploi, etc. Et là aussi, il y a un lien entre ce que nous sommes capables d'offrir chez nous et ce que d'autres sont capables d'offrir à un certain nombre de jeunes. Bref, tout cela demande beaucoup de coopération et de coordination au niveau européen essentiellement, pour que, entre nous, les Allemands, les Belges, etc., nous soyons sur la même ligne et que nous prenions des mesures de nature comparable. Conclusion de tout cela. Les attentats djihadistes sont venus établir chez nous et en Europe une forme de continuum entre péril extérieur et menace intérieure, et donc à exposer nos populations à une violence dont nous avions largement perdu la mémoire. Je voudrais, avant de poursuivre, non, je vais finir et puis je reviendrai dans les questions sur un point. La question qui reste, évidemment, aujourd'hui, c'est de savoir combien de temps cela va durer. Combien de temps va durer cette vague de terrorisme ? Daesh a été vaincu militairement, mais nous constatons qu'il s'est fractionné, qu'il a essaimé dans de nombreux pays, tout en se clandestinisant dans le chaos irako-syrien. Donc, Mali, Niger, Burkina Faso, jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Afghanistan, etc., tant d'autres pays, les groupes djihadistes prolifèrent et s'avèrent partout particulièrement dangereux. De plus, dans de nombreux pays, le nombre de candidats djihadistes susceptibles de passer à l'acte a dépassé une espèce de masse critique qui rend leur éradication quasi impossible. Quand bien même Daesh est ressorti très très affaibli de l'affrontement militaire, l'ubérisation du terrorisme qu'elle a prôné, qu'elle a lancé, va faire perdurer le recrutement de nouveaux candidats, de proche en proche, pourrait-on dire, par une sorte de capillarité mimétique déliée de tout lien avec la viabilité d'un État islamique lui-même. La machine s'est autonomisée. Le golem, pourrait-on dire, s'est autonomisé. Il ne faut donc pas envisager la défaite militaire de Daesh comme la fin du terrorisme islamiste. Cette défaite reste une condition nécessaire de l'avancée de la lutte contre celui-ci, mais elle va s'inscrire comme une étape supplémentaire d'une mutation de la violence djihadiste qu'il reste indispensable mais difficile d'anticiper. Que devons-nous faire devant de telles perspectives ? À titre personnel, vraiment encore, je dirais être nous-mêmes et le rester. Être lucide et protéger nos intérêts sans naïveté. Ne jamais compromettre sur les questions de sécurité et lutter contre le terrorisme sans aucune complaisance. Mais aussi garder, devant la complexité de la violence du monde, une approche empreinte, je dirais, d'humanisme, de respect d'autrui, voire de bienveillance, hors desquels la France, et cette académie porte ses valeurs, la France perdrait l'essentiel de son message au monde. Merci.